Bonjour, je suis Charlotte et à travers ce podcast, je vous propose de découvrir la saison 2 de notre aventure juillet. En route vers notre été invincible, nous rencontrons sur notre chemin des personnes exceptionnelles. Parce qu'elles osent, parce qu'elles sont passionnées, parce qu'elles assument ce qu'elles sont et parce qu'elles nous inspirent, nous avons envie de vous les présenter. Alors venez avec nous et savourons ensemble un instant juillet. Ce 26e épisode est très personnel. Nous recevons Patrice Dussault. Patrice est un personnage incontournable en Loire-et-Cher. Et je dis personnage sciemment, puisqu'il a même son portrait dans la galerie Tintin du château de Cheverny. Ancien garagiste Peugeot devenu président départemental puis régional de la CPME, Patrice Dussault s'applique par-dessus tout à transmettre son expérience et sa passion aux entrepreneurs qu'il rencontre chaque jour. Et si près d'un demi-siècle nous sépare, je me sens liée à Patrice parce que la rencontre est au cœur de nos vies et pour d'autres choses aussi que vous percevrez certainement au cours de cet épisode. J'ai rencontré Patrice au tout début de ma carrière il y a plus de 10 ans maintenant et c'est une rencontre qui a compté sur mon chemin. Et pourtant nous avons eu des débats, des désaccords, mais comme des personnes qui s'aiment beaucoup, avec toujours des rires, parfois quelques verres de Cheverny, mais surtout l'envie de partager ensemble un bout de route. Si jusque-là nous avons interviewé des personnes de notre génération qui, quelle que soit leur histoire ou leur passion, sont au même moment que nous de leur existence, j'avais envie pour cet épisode, à ce moment précis de notre aventure, de discuter avec un homme qui a vécu les mêmes questionnements et qui aujourd'hui possède le précieux trésor qu'est l'expérience. Alors c'est un podcast émouvant pour moi aujourd'hui et je suis heureuse de vous proposer de découvrir Patrice le temps d'un instant juillet. Donc Patrice, bonjour.
Bonjour Charlotte.
Merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité sur l'instant juillet. Alors j'ai fait une introduction super longue par rapport à d'habitude, mais parce que je sais que vous êtes passionné par le sujet de la transmission et qu'une fois que je vais vous laisser la parole, rien ne vous arrêtera. Mais Patrice, nous avons eu beaucoup de discussions passionnantes et encore tout à l'heure avant l'enregistrement sur l'entreprise, sur les engagements, sur l'implication d'une vie. Mais j'aimerais vraiment aujourd'hui parler avec vous de ce qui est essentiel, bouleversant, ce qui fait qu'on se sent vivant chaque jour et qu'à un peu plus de 70 ans, je ne dis pas exactement, on reste passionné par l'autre et par ce qu'il nous apprend. Et je me dis que peut-être, voilà, il y a un sens à tout ça, qu'il y a une rencontre, un instant, un imprévu qui a peut-être bouleversé votre destin et j'aimerais qu'on commence par ça.
Il y a beaucoup de choses qui ont bouleversé mon destin. C'est effectivement la rencontre après ma vie professionnelle d'une jeune fille comme toi. Charlotte, parce que c'est un petit peu le grand-père qui vient parler avec sa petite-fille. Et toi, tu étais toute gamine au CG et on avait la même passion de l'entreprise et de réussir les engagements qu'on avait pris l'un et l'autre. Toi, dans le début de ta vie professionnelle et moi, de ne pas louper la dernière marche de ma vie professionnelle. Et ça, c'était important, d'une part, parce que... J'avais la conviction à cette époque, une fois que j'avais, créé ma vie professionnelle dans la reprise du garage de mon papa 40 ans auparavant, d'avoir réussi avec mon épouse, qui est toujours mon épouse après 51 ans de mariage, qui a été ma collaboratrice pendant 40 ans. Ensuite, d'avoir eu des enfants qui m'ont vraiment émerveillé par leur carrière aussi, parce qu'ils ont été tellement différents l'un et l'autre. Toutes ces choses-là, je n'avais pas le droit de louper la dernière marche. Et après avoir vendu mon garage et puis m'être engagé, car j'ai eu une chance fantastique, c'est d'avoir un père gaulliste de l'époque et une mère social-démocrate. Et quand on a un père...
Déjà le en même temps, en fait, Patrice.
Oui, déjà le en même temps. Et c'est-à-dire que j'avais déjà, comme à la CPME derrière, que j'ai monté sur le territoire, j'avais un pied dans le, on va dire, le libéralisme tempéré et un pied dans le social. Et en fin de compte, ça ne m'a jamais quitté. Ce qui m'a jamais quitté, c'est cette notion de discernement qui manque, à mon avis, dans la période qu'on traverse aujourd'hui, où on est devenu des gosses de riches, des enfants gâtés, les Français, et on est toujours en train de se plaindre de tout, alors qu'il y a vraiment une chose qui est fantastique, c'est de voir comment des générations comme la tienne, Charlotte, et la mienne, on a pu travailler ensemble sur un projet commun, une cause. on travaillait pas pour l'appareil. Toi, tu travaillais pas pour le CG véritablement. Tu travaillais pour l'économie et l'entreprise. Et moi, je travaillais à l'autre bout de la chaîne pour la même cause. Et je pense ce qui fait que plus de 10 ans, j'ai gardé les mêmes amis de l'époque, de ton équipe que tu avais. C'est cet émerveillement de prendre une voie et de cheminer sur cette voie. Et quand tu chemines sur une voie, tu rencontres automatiquement des belles personnes. Le tout, c'est de cheminer.
Et moi, en fait, ce qui m'avait impressionné à l'époque, parce qu'effectivement, je commençais, et donc je n'avais pas d'expérience, je n'avais pas de légitimité, j'avais juste effectivement une envie, un engagement de m'investir pour mon territoire, et effectivement de faire des choses plus grandes que moi, mais voilà, sans légitimité aucune. Et vous arrivez avec votre expérience et vous avez envie à ce moment-là de transmettre, de m'aider, de compter sur moi aussi, de m'apprendre, de travailler avec moi sur ces questions-là. Et ça m'avait impressionné parce que je me suis dit, pourquoi quand on a réussi sa vie personnelle et professionnelle et qu'on a vendu son affaire et que finalement on peut bénéficier d'une retraite paisible, tranquille, chez soi, comment on décide de se dire non, en fait, je ne vais pas m'arrêter là, j'ai un autre combat et je vais transmettre et je vais continuer à rencontrer.
Alors, c'est beaucoup plus facile pour moi maintenant de dire pourquoi je l'ai fait, parce que j'ai réussi à ne pas me décourager dans le combat que j'ai voulu mener avec ton ancien patron, Maurice Leroy, et puis le préfet de l'époque, Gilles Lagarde. C'est qu'à cette époque-là, j'avais des convictions. Je suis un militant né, mais un militant de la vie.
Mais vous ne vouliez pas être en retraite, vous ne vouliez pas arrêter, en fait.
Mais retraite, je ne sais même pas ce que ça veut dire. C'est ça. Non, c'est-à-dire que je pense qu'on a... Je suis un homme de devoir, déjà. Je suis un homme de devoir et d'engagement, et puis je suis plutôt un combattant. Je suis plutôt un bâtisseur. J'aime rassembler, j'aime construire et j'aime transmettre. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui a été un triptyque en permanence. Rassembler des gens, construire avec eux et transmettre après aux autres générations qui arrivent derrière. J'ai toujours été comme ça. Mon père m'a appris ces choses-là, mais il m'a surtout appris de la notion de devoir. La notion de devoir, pour moi, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Et le devoir reste quelque chose que j'ai de chevillé au corps depuis toujours, dans mes engagements dans la mairie de Courchevernie pendant 11 ans, à la CCI du Loir-et-Cher, au tribunal de commerce, à la CPME, maintenant au groupement de prévention. La notion de devoir, c'est de se dire on a reçu des choses. Par exemple, on reçoit des choses, par exemple, de son pays. Aujourd'hui, on est quand même dans un pays où on a la liberté de parler, et moi qui des fois parle un peu fort, je n'ai jamais eu de problème véritable parce que j'ai dit des choses à des gens, je pense que j'ai pu les secouer un peu. Mais aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est de toujours espérer que la cause qu'on va défendre, elle soit juste et que... On a des doutes, hein, comme tout le monde, on doute. Toi, tu as certainement douté dans les périodes que tu as traversées.
Je doute
traversé,
encore tous
voilà,
les jours.
Voilà. Mais la pire des choses, c'est de ne pas douter.
Tout à fait.
Hein, la pire des choses, c'est de ne pas douter. Ensuite, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré tout au long de ma vie de très belles personnes.
Ouais, mais est-ce que c'est de la chance? Alors, ou est-ce que c'est que vous prenez aussi le beau? Ou est-ce que vous provoquez aussi le beau de chaque rencontre? Parce que moi, je me rappelle quand on s'est rencontrés, sincèrement, voilà, j'avais 20 ans, un peu plus de 20 ans, pas beaucoup plus. Et vous m'avez considérée. Et quelque part, ça oblige ça aussi. Mais à l'époque, quand je commençais, donc dans un milieu comme le conseil départemental, on rencontre plein de personnes très importantes, des grands directeurs, des élus, etc. Et quand on a 20 ans, sincèrement, il y a peu de gens qui nous considèrent. On est là parmi un flot d'agents. Et quelle que soit la flamme qu'on peut porter ou quelle que soit l'envie qu'on a pour le territoire, finalement, on est une gamine parmi d'autres et qui n'a pas d'expérience et qui n'est pas légitime. Et quand on s'est parlé et quand on a évoqué les projets qu'on avait ensemble, mon point de vue, même inexpérimenté, même de quelqu'un qui avait peut-être une utopie ou en tout cas voilà, qui avait la naïveté qu'on a à 20 ans, eh bien, vous m'avez considéré. Et ça, c'est hyper important dans la transmission. Ça, quand on progresse, quand on commence sa carrière, d'avoir quelqu'un comme ça, de légitime devant vous, qui vous considère, mais ça porte énormément. Ça donne une confiance essentielle.
Ce qui est bien, c'est effectivement de la notion de légitimité et de reconnaissance. Alors, la légitimité, bien sûr, que quand tu as 60 et quelques années, que tu as fait 40 ans dans un métier, que tu as réussi et que tu es libéré dans ta tête des contraintes, des soucis, du matériel que tu as plus de personnel, tu n'as plus d'engagement financier, c'est beaucoup plus facile. Parce que là, tu peux te poser tu sors du matérialisme et là, tu peux commencer à rentrer dans une phase de transmission beaucoup plus évolutive par rapport aux valeurs. Après, c'est une question de valeurs. Aujourd'hui, moi, je me souviens de t'avoir vu pétaradante avec tes collègues, où tu me donnais tes convictions, tu me disais voilà ce que je veux faire, voilà ce que j'ai envie de faire et tout. Et moi qui étais avec, comme tu dis, presque 50 ans de différence avec toi, grosso modo, de me dire bah, voilà des gens qui ont envie. L'envie d'avoir envie, c'est fantastique quand même. Et toi, tu étais pétulante là d'idées avec ta collègue et puis. Et puis Eric Barthez, il faut reconnaître qu'Eric était un boss assez ouvert à tout ce qu'on, à tous nos rêves de l'époque. Comment on va faire en sorte ce monde meilleur
En tout cas, donner une chance qu'on puisse les réaliser.
Voilà. Et les gens comme Maurice Leroy, comme Eric Barthez, comme Gilles Lagarde, comme tout ça, ce sont des gens qui font confiance. Une fois qu'on a gagné la confiance des gens, on n'a plus le droit de les trahir. Et il y a une chose dont je suis vraiment... très content, c'est de ne jamais trahir. Jamais trahir la parole donnée. L'engagement, la parole donnée, le devoir. Ça, ça reste quelque chose d'important. Et c'est pour ça que je ne suis jamais rentré en politique. Car je ne suis incapable de gérer mes émotions et de trahir un ami ou de perdre un ami. Et d'avoir rencontré tellement de gens politiques qui ont perdu tous leurs amis, qui les ont retrouvés, qui les ont perdus, tout ça, je suis incapable de le vivre.
Alors c'est rigolo ce que vous dites parce que souvent, moi, je demande aux gens qu'on interviewe la personne qu'ils admirent le plus ou en tout cas quelqu'un qui a pu les inspirer tout au long de leur vie. Et c'est évidemment une question que là, j'ai envie de vous poser. Et j'avais en tête que vous me sortiriez un personnage politique. Et je suis persuadée que vous allez me dire, non, quelqu'un qui vous a inspiré, même si vous n'êtes jamais rentré en politique, c'est pas des hommes politiques qui vous ont inspiré. Non ? Alors c'est qui alors ?
C'est des gens de peu. C'est des gens simples, les gens qui m'ont... quand j'étais au tribunal de commerce ou quand j'étais dans des situations d'écoute de gens, les gens qui m'ont beaucoup inspiré, c'est souvent des femmes. Des femmes de chefs d'entreprise, des femmes chefs d'entreprise, des femmes mères de famille, qui, dans l'adversité du monde économique, ont été toujours... beaucoup plus forte que les hommes. Te donner le nom d'une femme ou
non, mais
autre, non.
Ouais. Et vous voulez dire l'admiration pour quelqu'un qui va gérer plusieurs crises en même temps.
Qui va gérer un conflit, qui va gérer une situation où il n'y a pas d'argent, il n'y a rien dans le frigo. On est en train de basculer d'une situation où on était chef d'entreprise et pour une raison de... une situation de la vie fait que tout bascule d'un seul coup. Et ceux qui me... Ah non, ce n'est pas les hommes politiques dont je raffole, non, ça c'est clair. Mais je suis toujours admiratif dans le milieu économique de ces gens qui sont très forts, donc les femmes. Après, comme j'étais dans le monde économique, j'étais quand même énormément bluffé par des grands commis d'État. J'ai rencontré, là, depuis 10-15 ans, des gens dans les services de l'État, qu'ils soient dans les préfectures, qu'ils soient dans les services comme l'URSSAF, la DREETS, des belles personnes. Et nous,
dans l'ombre, vous voulez dire ? Des gens qui, dans l'ombre, finalement, s'investissent pour leur pays sans forcément chercher reconnaissance ou vitrine ou lumière, mais en tout cas qui
tout à fait. Des commis d'État. Je cite toujours mon ami Gilles Lagarde, qui est au Sénat avec Larcher aujourd'hui. Je cite des gens comme Emmanuel Lemot, qui est maintenant au ministère du Travail, qui était le patron, le CRP de la région là. Ce sont des gens qui se sont mis au service de la cause. Et moi, les serviteurs de la cause, j'ai un profond respect pour ces gens-là. Parce que c'est la vraie quête du sens, elle est là. C'est-à-dire servir son pays, servir une cause qu'on aime, une cause qu'on croit juste, puisqu'il y a de plus beau aujourd'hui. Alors, ça revient à la transmission que tu disais au départ. Ces gens-là, quand je suis avec eux et que je leur parle de mon parcours, de tout ça, ils me disent... on a rarement rencontré des gens à votre âge qui ont servi la cause jusqu'au bout. D'être heureux dans la vie, théoriquement, c'est un but. on sait que ça n'existe pas, le bonheur. Il y a des petits moments de bonheur. Et moi, j'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits moments de bonheur, dont aujourd'hui, d'être avec toi. Mais tout ça pour dire que être réalisé, se réaliser, c'est ça. La réalisation personnelle, elle est à ce niveau-là.
Mais alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on le sait qu'à la fin, ça? C'est un petit peu comme l'éducation des enfants,
tout
où souvent on se pose la question, est-ce qu'on est des bons parents? Et finalement, souvent, moi, ce qu'on m'a répondu, parce que vous savez que je suis très proche de mes grands-parents et que j'aime beaucoup avoir des témoignages de personnes justement qui ont de l'expérience du vécu, qui me disent finalement, tu sais que tu es une bonne mère quand ton enfant il a 20, 30 ans, qu'il est autonome et qu'il vit tout seul et que finalement il n'a plus besoin de toi. Et donc là, en fait, pour faire le parallèle avec ce que vous dites, ça veut dire que le sens ou les petits moments de bonheur où vous savez finalement que vous vous êtes réalisé, que vous avez fait ce que vous vouliez, c'est au moment où finalement tout est fini.
Oui.
Et alors si à ce moment-là vous vous dites, merde, j'ai foiré.
Non.
Comment on fait?
Ah bah tu peux dire, zut, j'ai foiré, oui. Mais moi, il y a des choses que j'ai foiré aussi. Hein,
ah, ça me rassure, parce que j'allais vous poser une question. Quand même des regrets à des moments.
J'ai beaucoup de chance que j'ai rencontré de belles personnes qui m'ont tendu la main et qui m'ont expliqué ce qu'il fallait faire ou pas faire. Et après, j'ai fait comme tout le monde. Hein,
vous les avez pas écoutés, quoi.
J'ai écouté ce que je voulais.
C'est ça.
Et puis des fois, je me suis pris le mur, et comme tout le monde, hein, mais... L'expérience, c'est un truc qui t'éclaire dans le dos, jamais par devant. Après, il y a une notion, Charlotte, qui est importante, c'est la notion de temps. Ce que tu penses aujourd'hui, toi, dans la plénitude de tes 30 ans, un peu passé, c'est quelque chose qui va te prendre vers le midi de ta vie, dans la période de basculement. Il va y avoir, à un moment donné, un compte à rebours. Ce compte à rebours, il arrive pour tout le monde au moment où tu te dis est-ce que je suis bien avec le même mari toute ma vie? Est-ce que mes gosses sont heureux? Est-ce que mes parents, ça va? Est-ce que mes copains, ça va? Bon, là, tu as une période où pause. Tu te poses parce que tu as déjà un peu de vécu. Tu fais l'évaluation de ce qui t'a rendu heureuse et pas heureuse ou heureux. Et donc, ça, c'est compliqué parce que tu te dis bon, qu'est-ce que je fais? J'ose? Je prends des risques? Je prends pas de risque. Toi, tu es en train de remonter ta boîte. Tu bouges un peu les lignes. Et là, tu te dis, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, tout ça. C'est pas très grave, tout ça. L'important, c'est éviter de faire trop de mal autour de soi. C'est important. Mais il faut y aller, il faut tracer. Parce que, après, est-ce que tu accepteras d'avoir des remords ou des regrets?
C'est ça.
C'est la grande question. Moi, je sais que j'ai dû blesser des gens à des moments parce que je n'ai pas été assez près d'eux et autre chose. Je le vois bien avec mes enfants et mes petits-enfants maintenant. J'ai sacrifié des choses, pas pour moi personnellement, mais pour la cause que je voulais défendre et tout.
Oui, mais est-ce qu'au fond, justement, c'est une vraie question que je me pose parce que moi aussi, souvent, je me dis ça. On se dit qu'on le fait peut-être pas pour soi, mais en fait...
Égoïstement un peu aussi.
Ouais, parce que bien quelque sûr. Part, la cause, c'est ce qui vous porte. Bien sûr, c'est-à-dire bien qu'après, bien chacun sûr. S'épanouit dans ce qu'il veut. Ça peut être dans la vie de famille, mais ça peut être aussi pour une cause. Et forcément, quand on a envie de vivre pour un projet, pour une cause, pour un sens autre, ça demande des concessions à côté. On ne peut pas tout faire.
Absolument. Je pense qu'il y a quand même un but, c'est d'être heureux.
Mais c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment y arriver. Il n'y a pas de chemin, en fait, il n'y a pas de chemin tout fait.
Il n'y a pas de chemin.
Donc ça veut dire que c'est... Enfin, en tout cas, nous, ce à quoi on croit et ce qu'on essaie de faire dans Juillet, c'est que le chemin, il est aussi fait de rencontres. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un chemin en tête à 20 ans pour être heureux. Puis finalement, on rencontre des gens, on a des projets, on découvre des choses, on apprend. Puis le chemin, finalement, du bonheur, il est peut-être différent de ce qu'on imagine au départ. En tout cas, on le continue. Il a des détours, il a des clairières, il a des endroits plus ombragés.
Je marchais un jour en Sologne, puisque je fais beaucoup de marches en Sologne. Et donc, je marchais et je rencontre un vieux monsieur, très vieux, qui marchait avec un sac à dos voûté, une bouteille d'eau à la main, et il venait de faire 100 km à pied. Donc je parle avec lui et... On mange un fruit, tout ça ensemble, on discute. Et je lui dis, alors vous marchez depuis longtemps, tout ça. Il me raconte sa vie un peu. Et alors qu'est-ce que vous en avez tiré de votre marche et des chemins que vous avez pris? Alors il me dit, j'ai pris des chemins de traverse. J'ai pris des chemins blancs, j'ai pris des routes. Et puis j'ai rencontré des gens bien différents. Il me dit, vous savez, un jour j'ai rencontré des gens au bord d'un chemin qui cassaient des cailloux. Alors je leur ai dit, qu'est-ce que vous faites? Et bien, il me dit, vous voyez, on casse des cailloux pour boucher des trous sur le chemin. C'est bien. Et puis j'ai fait un kilomètre et j'ai rencontré une autre équipe qui cassait des cailloux. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, nous on est en train de monter un mur là. D'accord. Et donc il dit, je continue, et là j'arrive sur une grosse équipe et qui cassait des cailloux. Je dis, bien alors qu'est-ce que vous faites? Il dit, on construit une cathédrale. Et donc bien sûr, c'est l'idée sous le symbole, mais les gens que tu vas rencontrer sur ton chemin, bah, t'en as qui cassent des cailloux, d'autres qui construisent des murs, d'autres qui construisent des cathédrales. Voilà. Le tout, c'est de cheminer. Le tout, c'est de cheminer. Cheminons, cheminons, cheminons.
Et c'est ça la conclusion alors. Oui. L'avenir, c'est ça.
Oui.
Vous continuez de cheminer.
Oui.
À 74 ans, il y a encore plein de projets.
Ah oui, 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 oui.
Des combats réalisés ou pas?
Ah ben, on est des gagnaurs. Attends, bien sûr, il y a encore... Déjà, il faut se monter à Paris, au ministère, finir ce que j'ai commencé avec toi. Il y a 12 ans. N'oublie pas, Charlotte. Il y a 12 ans, tu m'avais dit, à Cure-Vaillant, rien n'est possible.
Donc, mais je ne comprends pas comment un truc qu'on a créé ensemble il y a 12 ans, vous allez au ministère sans moi, du coup? Vous ne m'emmenez pas?
Mais parce que j'ai peur que tu me piques ma place.
Ah, c'est ça, mais vous avez raison.
C'est, tu sais, le problème des jeunes.
Ah oui, donc vous transmettez, mais à moitié. Hein. Faut quand même qu'on vous laisse.
Je fais ce que je veux quand je veux.
Ouais, c'est ça. Vous avez raison. Donc au ministère, bah ouais.
Et je vais monter là-haut et je suis très content parce que, tu vois, c'est une des rares choses qui part du territoire et qui monte à Paris. D'habitude, c'est Paris qui nous donne des ordres et qui nous fait descendre.
Mais c'est peut-être la solution, d'ailleurs.
Mon grand bonheur, et je le disais à mon président, François Asselin, c'est ce que j'ai pensé il y a 12 ans, en voyant ces gens malheureux au tribunal de commerce et en rencontrant les gens que je t'ai cités tout à l'heure. L'alchimie qui s'est passée entre un politique, un commis d'État et un garagiste à la retraite a fait que le grain de blé a pourri en terre et il a germé. Mais il faut qu'il pourrisse pour germer. S'il ne pourrit pas, il ne germe pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut.
J'ose pas voir ce que vous voulez me dire.
Et voilà.
Parce que là, forcément, on ne le voit pas parce que c'est juste du son. Mais moi, je vois votre regard, je vois vos yeux, Patrice. Et je sais qu'il y a des choses que vous essayez de me dire que vous ne me dites pas. Ok, je comprends.
Voilà, c'est là. Ouais. Je te fais passer des messages.
Ouais, bah,
voilà,
j'ai bien compris.
Voilà, je te fais passer des messages. Et tu t'en souviendras quand tu seras. Peut-être une grand-mère un jour, bien sûr, puisque tes enfants vont faire
j'espère,
des petits.
J'espère, quand je serai grand-mère, que je me dirai comme vous que je suis heureuse et que j'ai cheminé, voilà, et que j'ai trouvé un sens à mon existence ici.
Et puis, c'est le partage au quotidien, c'est ça qui est fantastique. On ne fait jamais les choses pour soi, on les fait pour les partager avec tout le monde, et c'est ça qui est bien. Alors, bon, après, il ne faut pas être bisounours non plus. Il y a des moments où il faut lever le pied un peu et tout ça, mais quand tu prends une claque par-ci, par-là, tu fais attention après. Puis c'est... Il n'y a pas d'avancée dans le chemin s'il n'y a pas des épreuves. Regarde ce qu'on vit aujourd'hui, on vit des épreuves fortes. Le Covid a été des épreuves fortes pour tout le monde. S'il n'y a pas d'épreuves, on n'avance pas.
Et puis on ne se rend pas compte aussi de ce qui est essentiel. Voilà. C'est-à-dire que c'est dans les épreuves aussi qu'on voit ce qui compte.
Et on est trop matérialiste, c'est clair. On a évacué le sacré dans plein de domaines. C'est pas pour autant que... Le sacré, pour moi, c'est pas d'aller à l'église le dimanche matin.
Non, hein. J'ai bien compris.
C'est sacraliser les choses.
Ouais, ouais. Hein. C'est les choses qui sont importantes, en fait.
C'est pas que le religieux, on est bien d'accord. Ce qui veut pas dire que le religieux n'est pas important non plus. Mais toutes ces choses-là font que... La vie, c'est quand même un échiquier. Il faut que tu pousses tout à peu près en même temps. Ta vie de couple, tes amis... tes emmerdes, ton boulot, puis tes projets. Il faut se mettre dans votre projet. Le projet, toujours votre
alors,
projet.
Ça voudrait dire que toutes ces choses-là sur l'échiquier, elles sont imbriquées ou qu'elles sont bien séparées, toutes ces choses?
Alors, elles sont séparées au départ, mais c'est la globalité. Pensée globale, action locale. Pensée globale, action locale.
Tout est lié,
et,
quand même.
Et tout est lié. Tout est lié.
Bien sûr.
Tout est lié et tu ne peux pas... Tu peux réussir ta vie, avoir des meilleurs amis. Si tu loupes ton couple, bah, t'as un caillou dans la chaussure. Et le tout, c'est de tout ça. Et moi, j'ai vraiment ce bol d'avoir pratiquement tout réussi.
Non, mais d'accord. Vous avez pratiquement tout réussi. Donc, j'enlève le pratiquement, ce qui me rassure, parce que je me dis qu'on ne peut pas tout réussir. Donc, si vous me dites que vous avez pratiquement tout réussi, ça veut dire que les échecs que moi je ressens ou que j'ai eus, c'est pas très grave, je pourrais réussir le reste. Tant pis.
Et puis, je vais te dire une chose. Les échecs d'aujourd'hui, tu les auras oubliés demain.
Bah, je me dis souvent ça. Qu'est-ce qui sera... Non, mais sincèrement, c'est une vraie question que je te pose. Qu'est-ce qui sera important pour moi demain?
Le sélectif qu'on a dans la tête, des emmerdements invraisemblables, tu les oublies tout le temps. Tu gardes, c'est ça qui est fantastique, tu arrives à trier dans ta tête et garder que les bonnes choses. Tu vois? Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, tu ne reviens pas à des choses en disant « Oh, dis donc, là, ça a été chaud. » Mais grosso modo, tu te souviens que de ce qui est positif. Ça, c'est super intéressant. Enfin, pour moi, c'est super intéressant pour ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, non pas à écrire mes mémoires, mais j'ai écrit, je suis à 300 pages.
C'est vrai ? Ouais, ça, c'est un vrai scoop.
Ça, c'est un truc fantastique. Et ça fait 10 ans que j'écris. Et ça fait 20 ans que je garde des souvenirs de manière à les transmettre. Et en fin de compte, c'est l'histoire de ma famille depuis 3 siècles. Puisque mon grand-père est né dans les années 1880, sur le 19e siècle, toute ma famille a vécu au 20e et mes enfants et mes petits-enfants au 21e. Et là, je raconte je raconte pas ma vie, je raconte les anecdotes. C'est les trucs qui sont que si tu le marques pas, tu t'en souviens plus. Et donc, je garde tout ça. Et donc, des histoires fantastiques. Donc, ma Charlotte, je terminerai à 75 ans, parce qu'après, il ne faut pas que je déconne quand même, et tu auras un exemplaire immédiatement.
C'est vrai, dédicacé.
Bien sûr. Et dedans, tu auras des surprises énormes.
C'est vrai, ouais. D'accord.
Bah, tu auras toute ma vie.
Ah, donc je vais enfin savoir les histoires que vous ne m'avez jamais dites.
Ah, celles-là, je les ai gardées pour moi aussi.
Ah, donc elles ne sont pas non plus dans le livre.
Je peux pas raconter. La part de rêve.
La part de rêve.
La part de rêve.
Merci beaucoup, Patrice.
Mais Charlotte, ça fut un plaisir.
On se retrouve très vite pour un nouvel Instant Juillet. En attendant, n'oubliez pas de rire et de crier, de chanter et de danser. N'oubliez pas d'oser. Réalisez vos envies et saisissez vos rêves. Vivez l'instant et osez la liberté. Soyez juillet.